Ceux qui font l'histoire officielle désignent les bons et les méchants, déforment les faits historiques et inventent des fables. On trouvait un antidote contre les chercheurs de vérité, la théorie du complot. Dès que quelqu'un cherche à comprendre et s'interroge sur les incohérences de l'histoire officielle, on lui accroche autour du cou la pancarte « complotiste », comme si l'histoire n'était pas faite de minorités actives.
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, madame. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir, vous écoutez Radio Canu, 102.2 FM à Lyon, et vous l'écoutez également certainement sur Internet. Vous êtes dans Les Yeux Grands Ouverts, l'émission tous les dimanches de 23h à minuit. Et ce soir, nous allons parler de l'histoire du... entre guillemets conflit des relations politiques entre Cuba et les États-Unis en s'infiltrant petit à petit dans les détails et en allant chercher tous les petits complots qui ont tourné autour de tout ça. On va notamment parler de l'assassinat de Kennedy, de l'opération Northwood ou de choses comme celle-ci qui sont pour la plupart des documents classés secret défense au départ mais qui ont été déclassifié suite au meurtre de JFK, puisque l'enquête et le poids que les personnes qui ont demandé ce genre d'ajournement a pu permettre, c'est tout simplement de faire apparaître au grand jour certains documents classés secrets. Alors, avant de commencer ce petit récit, où nous allons parler de ce qui s'est passé en remettant tout ça dans les faits historiques, nous allons... D'abord, parler du fait que Radio Canu a besoin de votre aide, de votre soutien, puisque nous réclamons à l'heure actuelle une campagne de soutien. Envoyez vos dons à Radio Canu, qui voudrait pérenniser son activité, en fait, puisque pour l'instant, la radio n'est pas propriétaire de ses locaux, donc les loyers augmentent de plus en plus, ça devient très compliqué pour la radio de subvenir. comme nous sommes une radio associative, que nous n'avons pas de fonds et nous n'avons pas de publicité, forcément, l'argent est compliqué à trouver. Donc, si vous pouvez envoyer vos dons pour permettre à Radio Canu d'acheter des locaux et de pérenniser son activité, sinon on risquerait de disparaître de la bande FM, envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201, Lyon, CEDEX 01. Ou alors vous pouvez aller directement sur le site internet du Radio Canu, il y aura toutes les infos sur la manière dont vous pourrez faire parvenir vos dons. Voilà pour ce qui concerne la radio sur laquelle nous émettons. Pour ce qui est de l'émission Les Yeux Grands Ouverts, il y a la boîte mail Les Yeux Grands Ouverts, qui est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, donc tout au pluriel et tout attaché, il n'y a pas de tiret, rien du tout. Donc grand avec un S et ouvert avec un S, lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, envoyez vos suggestions ou tout ce que vous voulez. Il y a le blog qui vous permet de réécouter tous les podcasts. Donc vous allez sur le site de Radio Canu, à la page du planning de l'émission, de toutes les émissions de la semaine. Vous cliquez sur Les Yeux Grands Ouverts et vous serez ainsi dirigé directement vers le blog de l'émission avec tous les podcasts à votre disposition, notamment sur les cours d'autodéfense intellectuelle, sur l'histoire de la Révolution française, sur la colonisation, sur tout un tas d'émissions qui ont été faites depuis que Les Yeux Grands Ouverts existent. Pour ce qui est de l'actu de l'émission, vous avez également un autre moyen de nous suivre qui est Internet, Facebook en l'occurrence. Le fameux réseau social nous permet d'avoir une page. Vous allez sur le réseau, vous tapez Les Yeux Grands Ouverts et vous serez dirigé sur la page. Il vous suffit de cliquer sur j'aime et de s'abonner à la page pour avoir toutes les infos qui s'affichent dans votre fil d'actu. Car si vous ne vous abonnez pas, malheureusement, vous n'aurez pas les infos. Voilà, voilà pour ce qui est de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Ce soir, donc, nous allons entamer un petit récit sur l'histoire entre les USA, les États-Unis et Cuba. Puisque en ce moment est revenu un peu sur le devant de la scène médiatique les relations entre ces deux pays, puisque dans la semaine, Barack Obama a décidé de commencer à lever et à assouplir le fameux embargo qui traîne depuis plus de 80 ans, il me semble. Non, c'est les années 60. Non, ça fait plus de 50 ans, pardon, je vous dis n'importe quoi. Depuis 50 ans que ce fameux embargo existe entre les États-Unis et Cuba. Depuis les années 2000, les biens de première nécessité comme les médicaments et la nourriture ont le droit de circuler un petit peu. Sachant que le commerce avec les États-Unis régit en à peu près entre 30 et 45% de l'économie cubaine. Donc, pour dire qu'ils sont totalement dépendants au commerce qu'ils peuvent développer avec les États-Unis d'Amérique. Donc, cet embargo est un réel handicap pour eux. Alors, nous allons entamer ce petit récit en parlant déjà de la situation cubaine, parce que la situation cubaine, historiquement, elle n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui sans beaucoup de remous. On va parler de tout ça en traversant l'histoire et en s'arrêtant à l'assassinat de Kennedy. Tout d'abord, il faut parler de Cuba dans sa situation interne. Partons de 1933, donc on remonte un peu loin, je suis désolé, mais c'est vraiment pour situer le contexte, on va essayer d'être assez rapide, assez concis. Donc c'est Ramón Grau San Martín qui a gouverné pendant 100 jours le pays, succédant à un régime tyrannique lors d'un coup d'État, hein, il avait accédé au pouvoir. Malgré les conspirations incessantes, l'instabilité politique chronique et l'hostilité des États-Unis, la révolution de 1933 a quand même appelé à des élections le 22 avril 1934, a réussi à convoquer une assemblée constituante le 20 mai 1934, accorder l'autonomie aux universités, baisser le prix des articles de première nécessité, donner le droit de vote aux femmes, a nationalisé quelques entreprises et avait permis également de commencer ce qu'on appelle un audit sur la dette, donc qui permettait de ne pas rembourser certaines des échéances que devait rembourser l'État cubain. En 34, les Américains soutiennent le coup d'État qui renverse ce gouvernement. Monsieur Batista qui prend le pouvoir en 1934. Il le garde jusqu'à 1940. Il impose un gouvernement pro-US, pro-États-Unis, donc qui règne dans l'ombre jusqu'à son élection à la présidence de la République en 1940. Son gouvernement fut marqué, selon Washington, par le volume de la puissance et la corruption, hein. Donc malgré le fait qu'il faisait beaucoup d'affaires avec cette personne, il savait que c'était un régime totalement corrompu. Son alignement sur la politique étrangère des États-Unis et sa dépendance vis-à-vis du marché états-unien était assez flagrante. Batista a permis également à Washington d'utiliser l'espace aérien maritime et terrestre, de disposer de plusieurs bases aériennes et navales à usage exclusif durant la Seconde Guerre mondiale, sans traitement de réciprocité, mettant ainsi la souveraineté nationale de Cuba entre parenthèses. Batista perdit le pouvoir au profit de Ramón Grouson Martín, la personne dont je vous parlais avant, qui avait pris le pouvoir lors du coup d'état de 33, suite à une élection en 1944. 4 ans de pouvoir encore éclaboussés de corruption et de politique pro-américaine, hein, il n'y a pas eu vraiment de changement. Carlos Prio Socarra, alors Premier ministre et ministre du Travail ensuite dans ce gouvernement-là, lui succède en 1948, suite à une élection. Donc on se retrouvait un peu avec le système politique que les Sud-Américains appellent Punto Fijo, le point fixe. Les personnalités politiques qui étaient à la direction du pays étaient un peu toujours les mêmes et menaient la même politique. Quelques mois avant l'élection en 1952, après les 4 ans de mandat de la personne que je viens de vous citer, Julio Batista, l'ancien président donc, très bas dans les sondages et sant qu'il va pas pouvoir gagner l'élection, décide d'attenter un nouveau coup d'État. Le 27 mars 1952, les États-Unis reconnaissent officiellement son régime, hein, alors qu'il vient de faire un coup d'État. Comme le soulignait l'ambassadeur états-unien à La Havane, les déclarations du général Batista concernant le capital privé ont été excellentes. Elles ont été très bien reçues et je savais sans aucun doute possible que le monde des affaires faisait partie des plus enthousiastes supporters du nouveau régime. Donc les intérêts américains étaient protégés par cette personne, donc ils l'ont laissé faire son coup d'État, ils ont reconnu son gouvernement. En 53, quelques révoltes sont tentées, notamment le 26 juillet 1953, un jeune avocat nommé Fidel Castro prit la tête d'une expédition armée contre la caserne Moncada, seconde forteresse militaire du pays. Je suis désolé, je parle un peu vite, mais c'est pour aller assez rapidement dans les faits et pour situer un peu ce qui se passait à Cuba à ce moment-là, sans non plus trop rentrer dans les détails, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, tentative de coup d'État en 53 de Castro et certains de ses camarades. Un échec sanglant. Le consulat états-unien de Santiago de Cuba note que l'armée n'avait pas fait de quartier auprès des insurgés capturés ou des simples suspects. Donc, il est arrêté, bien entendu. Voilà. Quelques années après, Batista est très impopulaire, donc il organise une amnistie des prisonniers. Donc toutes ces personnes-là qui avaient tenté hein, du moins un coup d'État contre lui sont libérées. Et donc ces personnes en profitent pour fuir Cuba et aller se réfugier ailleurs. Le régime donc militaire, au moment où il décide de libérer ses prisonniers politiques, met en même temps en place un bureau spécialisé des activités de surveillance des activités communistes qui s'appelle le BRAC. C'était donc un bureau de répression des activités communistes, tout simplement, c'est ce que ça veut dire, c'est l'acronyme. Et il était chargé de réprimer toutes les activités subversives qui pouvaient affecter les États-Unis d'Amérique ou sa politique économique. Donc Castro s'enfuit, comme je vous le disais, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer le fameux Che Guevara au Mexique durant son exil. Batista, faisant preuve d'une violence féroce à l'égard de l'opposition durant son gouvernement, mais les États-Unis le laissent faire, pourtant il n'y a aucun problème avec ça, puisqu'ils garantissent leurs intérêts économiques. Preuve de discrétion vis-à-vis des crimes commis par celui-ci. Pourtant, l'ambassade états-unienne à La Havane multipliait les rapports à ce sujet, hein, ils le savaient ce qui se passait. Alors, par exemple, je cite l'ambassadeur de l'époque, « Nous sommes désormais convaincus que les assassinats récurrents de personnes que le gouvernement qualifie d'opposants et de terroristes sont en fait le travail de la police et de l'armée. L'explication officielle est que les hommes ont apparemment été tués par d'autres opposants. Cependant, l'attaché juridique a reçu des aveux indirects de culpabilité au sein des cercles de police, en plus des preuves de la responsabilité de la police. » Donc un régime totalement tyrannique avec la police qui tue à tous les coins de rue les opposants politiques. Donc en décembre 56, Castro débarque non sans difficulté à Cuba. Hein, il revient à Cuba avec des camarades à lui. Ils sont pourchassés par la junte militaire en place. Sur 80 qui débarquent, il y en a seulement 12 qui survivent. Les camarades de Castro. Hein, un autre mouvement est tenté de renversement de Batista en 57. Il est violemment réprimé. Sur le principe, il était soutenu par Fidel Castro, mais ses compères étaient contre le fait, en fait, qu'on attente à la vie directement de Batista pour pouvoir prendre le pouvoir, puisque eux voulaient directement assassiner Batista pour pouvoir récupérer le pouvoir. Castro n'était pas pour cette manière de prendre possession du pouvoir, en fait. Puis un enchaînement d'insurrections se déroule par l'âge mis en place par le petit groupe militaire de Fidel Castro. Il s'exprime aussi dans le New York Times, Fidel Castro, ce qui contribue à le rendre super populaire auprès de la population cubaine. Durant la fin de l'année 57, les offensives militaires répétées contribuent au retournement de l'armée militaire de Batista. Fin décembre 1958, les US lâchent Batista quand ils ont compris que le petit groupe militaire de Fidel Castro est aux portes du pouvoir, ils décident de l'abandonner en fin décembre 58. Et le 1er janvier 59, les insurgés entrent dans la Havane et le 5, ils proclament directement leur gouvernement. Bref, un tas de péripéties, hein. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'il y a vraiment plein de choses dont on pourrait parler, plein d'offensives différentes dans plein de secteurs différents, certaines sont des échecs, d'autres non, etc. Donc les choses sont allées petit à petit, ont avancé discrètement. Bref, Castro est nommé Premier ministre à ce moment-là, alors qu'il y a un président et lui est juste Premier ministre. Suite à l'appel du peuple le peuple appelle à ce gouvernement à rester et décide de virer le président de la République du moment et de le remplacer par Osvaldo Dorticos, le peuple soutenant la révolution en place. Au cours de l'année 1960, Castro annonce qu'il identifie son régime à un régime communiste, chose qu'il n'avait pas faite avant. Ce qui avait permis en fait de prendre le pouvoir sans que les USA tentent de leur mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils ne voulaient bien évidemment pas d'un régime communiste. Et donc ils ont fait ça discrètement et en 1960, Castro reconnaît le régime comme communiste. Du coup, les USA refusent de reconnaître ce gouvernement et l'abandonnent. Et de là va s'enchaîner tout un tas de petites histoires qui vont mettre en place un contexte géopolitique entre ces deux pays très 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 compliqué. Alors on va se passer un petit morceau de musique là, hein, on va se détendre 5 minutes parce que là la première partie est très 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 dense, la suite le sera aussi, mais j'essaierai d'aller moins vite pour que ce soit plus clair. Là c'était juste pour situer ce qui se passait un peu à Cuba et ce qui a permis aux communistes déclarés par la suite de prendre le pouvoir dans ce pays grâce à un coup d'état. Donc on va passer à un morceau de Stereotypical Working Class qui s'appelle Sans Repère. vous êtes toujours sur les ondes de Radio Canus, sur la fréquence 102.2 FM, dans les yeux grands ouverts, l'émission du dimanche soir de 23h à minuit. Et ce soir, nous parlons des relations politiques entre Cuba et les États-Unis et des complots qui ont été fomentés autour de tout ça. Alors, j'en étais dans mon récit à l'arrivée de Fidel Castro et de ses camarades au pouvoir et de son régime communiste déclaré après coup, ce qui lui a permis d'accéder au pouvoir sans bâton dans les roues en provenance des États-Unis, et du fait qu'une fois son gouvernement mis en place et déclaré comme communiste, les États-Unis refusent de reconnaître sa légalité. Le problème n'est bien entendu pas que ce soit un coup d'État ou non, puisqu'ils ont reconnu des gouvernements précédents à Cuba, notamment celui de Batista, comme légitimes, alors qu'ils avaient également été mis en place sur un coup d'État. Donc, le 21 octobre de l'année 1960, un bimoteur contre-révolutionnaire mitraille la Havane. Donc c'est un avion, bien entendu, un avion militaire contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qui a pour intention de renverser le pouvoir qui est en place. Il provoque 2 morts et 50 de blessés, tandis qu'un autre avion, l'Arc de la Propagande, en juin et juillet 1960, en représailles à un refus de raffinage de pétrole de soviétique par les entreprises américaines. L'URSS ayant établi en février 1960 des relations diplomatiques et commerciales avec Cuba, étant donné que les États-Unis commencent à le refuser. Fidel Castro, suite au fait que les entreprises américaines refusent de raffiner du pétrole soviétique, Castro décide de nationaliser toutes les sociétés américaines situées à Cuba. Donc forcément, ça ne plaît pas aux Américains. La politique menée par ce gouvernement contrarie énormément les intérêts privés américains, puisque s'ensuit tout un tas de nationalisations autres que celles des entreprises de pétrole, récupération des biens, etc., de la corruption également, réappropriation de la souveraineté de l'État, tout simplement, parce que les politiques qui étaient menées précédemment à Cuba étaient tout simplement des politiques pro-américaines. Bien entendu, tout cela est loin de ravir les Américains. Chez eux, le contexte est très spécial. Le président vient de changer au début de l'année 1961, puisque comme vous le savez certainement, l'investiture chez eux, c'est en janvier, même si les élections se déroulent avant. Mais une attaque militaire a déjà été planifiée par l'administration précédente, celle de Eisenhower. Mais en 1961, c'est John Fitzgerald Kennedy qui accède au pouvoir aux États-Unis d'Amérique et qui devient président. Alors, un débarquement pour envahir Cuba a été organisé par l'administration précédente, pas celle de JFK. Et donc, ils décident d'accoster du côté de la baie des cochons, le fameux débarquement de la baie des cochons. Alors, la CIA a recruté des dissidents qui ont fui Cuba à l'arrivée au pouvoir de Castro, et on les a envoyés débarquer et tenter une invasion de Cuba avec l'aide de quelques bombardiers pour mettre à mal l'aviation cubaine, des bombardiers qui eux sont américains. Le 15 avril 1961, des bombardiers peints aux couleurs de l'aviation cubaine, en violation des conventions internationales, puisque normalement c'est interdit de brandir d'autres couleurs que les siennes lorsqu'il y a un conflit armé. Bien entendu, vous me direz, un conflit armé, de toute manière, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien si, il y en a quand même dans les conventions internationales. Donc, ils peignent des avions aux couleurs cubaines, les Américains, et ils en profitent pour descendre une grande partie, pour liquider une grande partie de l'aviation aérienne cubaine, sauf 8 appareils qui n'étaient pas au sol à ce moment-là, qui eux, donc, du coup, vont survivre. Malheureusement pour eux, une fois arrivés sur les côtes, toute la partie des exilés cubains qu'on envoie, que la CIA missionne pour envahir Cuba, une fois arrivés sur les côtes, les mercenaires, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'obtiennent pas du tout le soutien de la population locale, et des agriculteurs notamment, qui eux étaient très très contents de la nouvelle politique agraire qui était lancée par le gouvernement qui se disait socialiste. Donc ils n'avaient aucune raison d'accepter d'aider ces personnes-là. L'armée cubaine parvient, à l'aide de quelques avions qui lui restent, les 8 qui ont survécu, à mettre la main sur ces fameux envahisseurs, qui étaient environ 100 000 je crois, 10 000 je me rappelle, ça fait une sacrée différence, malheureusement je ne l'ai pas noté, je suis désolé. Donc ils parviennent à les coincer, et le 19 avril, tous ces exilés qui sont venus pour envahir Cuba et tenter de renverser Castro sont faits prisonniers par l'armée cubaine, et ils se rendent. Enfin, ils se rendent et du coup, ils sont faits prisonniers. Kennedy, récemment entré en investiture, reniera totalement cette intervention qu'il n'avait pas décidé du tout. C'est pas lui qui l'avait organisé ou qui a donné son aval ou non. C'était déjà organisé avant. C'est l'administration Eisenhower. Il accusera la CIA même de lui avoir menti pendant ce débarquement. pour essayer de tenter d'obtenir de lui certaines décisions qui arrangeaient la CIA à ce moment-là. On lui suggérera dans les derniers moments un appui aérien aux exilés cubains qui envahissaient Cuba, chose qu'il va refuser. Et beaucoup diront que c'est à cause de cela que cette intervention militaire va échouer. Donc il va commencer à y avoir des petites animosités qui vont traîner entre les services secrets américains et l'administration Kennedy. Suite à cela, il renvoie 3 membres de la CIA, suite à ce fameux fiasco de la baie des cochons. Il renvoie 3 personnalités importantes de la CIA. Allen Dulles, qui est le frère du maire de Dallas. Vous comprendrez plus tard dans le récit pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer grosso modo. Tout simplement, Kennedy s'est fait tuer à Dallas. C'est Allen Dulles, donc, qui est le frère du maire de cette ville. Charles Carbell et Richard Beazle. Mon accent américain est à chier, je suis désolé. Cet événement constitue une véritable déroute et une humiliation pour les Américains, qui du même coup perdent définitivement l'attrait des ressources cubaines, puisque les Cubains décident totalement de se retourner contre eux et ne veulent plus entendre parler des États-Unis parce qu'ils ont compris quelles étaient leurs réelles intentions. Et donc Cuba se tourne définitivement vers Moscou et l'URSS. Mais bien entendu, les multinationales américaines n'ont pas l'intention de s'en laisser compter et usent de leurs appuis politiques pour demander des réactions supplémentaires du côté des services secrets américains et de l'administration du pouvoir du gouvernement en place. De plus, pour la CIA et une grande partie de l'administration américaine, il est impossible de laisser triompher une révolution dite socialiste ou communiste sous leur nez, puisque Cuba est à peine à 200 km des côtes américaines. C'est impossible de laisser Moscou gagner du terrain et de surcroît les privés d'intérêts financiers dont ils bénéficiaient durant des dizaines d'années sous les dictateurs précédents. Donc pour les intérêts privés américains, c'est une très mauvaise chose que ce gouvernement se mette en place sous leur nez. Et là, on va rentrer dans la partie plus classée top secret que certains qualifieront de théorie du complot, comme ce que j'énonçais un peu dans l'introduction de mon émission. Alors attendez, je vais passer peut-être un petit morceau de musique là, histoire de souffler 5 minutes. Et après on attaquera un dossier classé top secret, qui a été déclassifié suite à l'affaire Kennedy, qui s'appelle l'opération Northwood. Alors on va s'écouter un petit morceau de musique, un petit truc un petit peu péchu, hein. On va s'écouter un morceau du groupe Sepultura, morceau qui date de 1996 dans leur album Roots. Et ce morceau s'appelle Cutthroat. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le métal, mais ça bouge. We'll be right back. Il est 23h42, vous écoutez toujours Radio Canu sur le 102.2 FM et vous êtes dans Les Yeux Grands Ouverts. Alors nous reprenons le récit de ces fameuses relations entre Cuba et les États-Unis. On s'était arrêté au moment où la baie des cochons, la tentative de débarquement du côté de la baie des cochons est un fiasco total. Kennedy renie l'affaire et vire trois personnes, trois têtes pensantes, trois grands noms de la CIA. Donc, suite à cet échec, les industriels américains poussent un peu l'administration à prendre des décisions. Donc, des éventualités sont mises en avant. Des réflexions et des opérations sont sous réflexion. On réfléchit à une manière de renverser ce régime. Donc, en 1962, un groupe de personnages militaires en lien avec la CIA fomente le projet d'une opération nommée Opération Northwood. Je recommande à tout le monde d'aller se renseigner à ce sujet d'ailleurs. On fera suivre les documents sur la page de Facebook de l'émission Les Yeux Grands Ouverts. Vous trouverez une page Wikipédia tout simplement sur Internet. Vous pouvez taper le nom sur Google, vous trouverez immédiatement. L'opération Northwoods donc est un projet d'opération militaire clandestine sous fausse bannière. Ce qu'on appelle fausse bannière, c'est en fait on fait une opération militaire en se faisant passer pour un autre pays que celui qu'on veut réellement défendre au départ. Donc cette opération est destinée à manipuler l'opinion publique. Il s'agissait en fait de blesser ou tuer des citoyens américains pour ensuite accuser les Cubains et pouvoir envahir leur pays. Alors, le plan conçu par Craig consistait à faire subir des dommages aux biens et au personnel américain, civil et militaire, suffisamment important pour susciter une forte indignation dirigée contre le régime de Fidel Castro et de tous ses acolytes. Ainsi, il était prévu de lancer des rumeurs en utilisant des radios clandestines, faire entrer des Cubains alliés en uniforme dans la base de Guantanamo, simuler des émeutes près de l'entrée de la base, faire exploser des munitions à l'intérieur de la base et provoquer des incendies, saboter un avion et des navires de la base de Guantanamo, bombarder la base avec des obus de mortier. Il était par ailleurs envisagé aussi de couler un navire de guerre américain dans les eaux territoriales cubaines avec la présence de proches navires ou avions cubains aux fins d'imputation, hein, pour accuser les Cubains, de simuler des funérailles pour les fausses victimes, de mener une campagne terroriste communiste cubaine contre les exilés cubains, etc., enfin de la fausse répression, de violer l'espace aérien des États voisins avec de faux avions cubains, simuler la destruction d'un avion charter d'une compagnie aérienne détenue en sous-main par la CIA, et dont les passagers et des étudiants en vacances auraient été transférés sur un avion similaire, puis le drone se serait explosé sur Cuba, en indiquant d'une manière fausse par message radio qu'il était attaqué par un chasseur cubain. Donc en plus de ces projets, le ministre de la Défense avança plusieurs idées d'opérations, telles que l'opération Coup Vicieux, hein, c'est très joli comme on dit donc, partie d'un ensemble de projets qui était baptisé l'opération Mongoose. Alors ça veut dire mangouste en anglais tout simplement. C'est une organisation d'opérations, enfin une opération Mongoose qui elle chapeautait plein de types d'opérations différentes, consistant à nuire au régime de Fidel Castro. On envisageait donc des accidents d'un vol, notamment le vol Mercury, d'envoyer dans l'espace John Glenn et prévoyant d'en rendre les Cubains responsables à l'aide de preuves préfabriquées en établissant des interférences électroniques. Hein. Par exemple, on fait tomber quelqu'un et on dit que ça vient des Cubains en faisant croire que des interférences radiophoniques émises par le régime cubain a provoqué ces accidents. Alors conscient de la difficulté de faire avaler ça à l'opinion publique et qu'on est dans un état démocratique a priori aux États-Unis d'Amérique, enfin qu'ils le sont du moins, puisqu'on ne peut pas dire on n'y est pas, et ils se disent que c'est compliqué de maintenir tout ceci, ce serait éventuellement compliqué de maintenir tout cela secret, surtout des opérations aussi vicieuses que celle-ci. Et donc il fallait, l'état-major a vraiment insisté sur le fait que cette opération ne devait rester que entre les mains de personnes de totale confiance. Le 13 mars 1962, le plan est présenté au groupe élargi qui a été nommé par Kennedy suite à la baie des cochons et au licenciement de trois personnes de la CIA. Et donc c'est un groupe élargi de réflexion sur la situation cubaine et qui est anticastriste bien entendu. Et voilà, donc malgré les menaces qui seront proférées à l'encontre de Kennedy ou de Robert McManara, qui est un conseiller très proche de lui, le projet est rejeté dans sa totalité. Aucun des éléments n'est accepté. Le président Kennedy refuse également d'autoriser la mise en œuvre du projet. Il perçoit le général Leminster comme un anticommuniste hystérique et qui est en plus soutenu par le complexe militaro-industriel qui commence un peu à angoisser Kennedy, notamment sur le conflit au Vietnam qui lui demande d'envoyer des hommes supplémentaires, des hélicoptères supplémentaires et plus de troupes. Il tient ferme la ligne définie par son successeur qui l'avait mise en garde lors de son discours de fin de mandat, où il disait en gros que l'administration américaine devait faire très attention au complexe militaro-industriel qui avait une influence très forte. Suivent 6 mois de relations très hostiles entre l'état-major interarmé et l'administration Kennedy. Leminster, donc la fameuse personne dont je vous parlais qui a proposé ce fameux projet Northwood, est finalement remplacé par Kennedy en septembre 1962 et est nominé en remplacement de Norstad. Voilà, avant de rejoindre son nouveau poste, il donne l'ordre de détruire toute trace de ce fameux projet Northwood. Robert McManara, qui est donc le conseiller très très proche de Kennedy, décide de conserver un exemplaire et de le mettre dans les archives, dans ses archives personnelles du moins, et ce qui a permis donc récemment d'obtenir la mise au jour de ce document, qui a été mise au jour dans les années 2000 il me semble. Et il a bien fait de mettre de côté ce petit document, lui qui n'était pas du tout d'accord avec les influences du complexe militaro-industriel. Donc ce document sera déclassifié, je disais, suite aux enquêtes qui concernaient le meurtre de JFK. On y vient petit à petit pour ce qui est de tous les complots. Alors à ce moment-là, dans l'histoire, dans ce qui se passe dans ce fameux contexte, beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans l'administration militaire ou même politique accusent Kennedy de laxisme vis-à-vis des communistes en place à Cuba. Dans ce contexte très tendu suivra la crise des missiles. Alors pour resituer un peu, c'est Khrouchtchev qui envoie des soldats, des missiles et des sous-marins ainsi que des lanceurs en direct qu'il met en place à Cuba, qui seront dirigés vers les États-Unis d'Amérique. Tout simplement, ils font ça pour protéger Cuba d'une invasion américaine. Cet événement conduisit le monde à la limite de la Troisième Guerre mondiale, en tout cas a priori, certains le disent, alors que d'autres pensent, eux, que tout ceci était un peu calculé de la part des deux puissances pour pouvoir... Que les USA ont laissé faire afin de pouvoir déclencher et de conforter le plus gros embargo qui existe sur Cuba, un embargo total, pour lequel ils ont quand même été condamnés plus de 18 fois par les Nations Unies. Cet épisode se terminera, donc celui de la crise des missiles russes, par un retrait pur et simple des missiles, des lanceurs. En contrepartie, les Américains signent des accords qui les engagent à ne jamais envahir Cuba. Alors les USA acceptent également de retirer certains de leurs lanceurs qui sont situés en Europe, notamment en Italie, près de la Russie. Donc c'est l'échappatoire qui est trouvé par cette crise. Cette campagne donc, qui a été menée par Khrouchtchev, s'avère être un échec pour tout le monde au final, l'URSS perdant crédibilité aux yeux de ses alliés, puisqu'ils tentent une opération militaire pour protéger Cuba et finalement ils font marche arrière. Les USA n'ayant pas eu le temps de réagir et n'ayant pas réagi à temps, on se retrouve aussi mal vu dans cette histoire et n'en ressort pas grandi. En plus, ils s'étaient retrouvés avec des lanceurs de missiles nucléaires à 200 km de leur côte, ça fait mauvais genre. Et Cuba, n'ayant toujours aucun moyen de pression sur les USA et se retrouvant toujours menacé, est aussi perdant dans cette affaire. Même si des accords ont été signés, la menace américaine plane toujours sur Cuba. Pour ce qui est de la situation interne des États-Unis, Kennedy prend des mesures pour démanteler l'indépendance de la CIA, ainsi que des groupes d'entraînement militaire d'anciens exilés, notamment les trucs qui sont chapeautés par l'opération Mangouste, qui ont pour but de faire tomber le régime cubain. Tous ces groupes, il y en a beaucoup qui sont dissous, tous les camps d'entraînement militaire, etc. Beaucoup de ces choses-là sont dissoutes. Kennedy dira au sujet de Cuba, je le cite, « Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde, y compris les pays sous domination coloniale, où la colonisation économique, l'humiliation et l'exploitation ont été pires que celles qui ont sévi à Cuba, du fait de la politique de mon pays pendant le régime de Batista. Nous avons refusé d'aider Cuba dans son besoin désespéré de progrès économique. En 1953, la famille cubaine moyenne avait un revenu de $6 par semaine. Ce niveau de vie abyssal s'est enfoncé à mesure que la population s'accroissait. Mais au lieu de tendre la main amicale au peuple désespéré de Cuba, presque toute notre aide prenait la forme d'assistance militaire. Assistance qui a simplement renforcé la dictature de Batista. générant le sentiment croissant que l'Amérique était indifférente aux aspirations cubaines à une vie décente. Voilà, donc ça c'est Kennedy qui disait ça au sujet des Cubains. Des Cubains, ça ne veut strictement rien dire. Alors, mauvaise idée, Kennedy qui est... décide donc d'essayer de dissoudre l'indépendance de la CIA vis-à-vis du pouvoir. Hein. Il veut pouvoir astreindre un peu ses services secrets qui tentent de lui faire des enfants dans le dos lors de certaines opérations militaires. Mais c'est une très mauvaise idée parce que les animosités contre lui vont énormément monter. Le 22 novembre, il part en voyage officiel à Dallas, au Texas. Il est un peu en début de campagne hein, pour se faire réélire aussi, même si c'est un peu en avance. La ville donc du frère du personnage de la CIA qui a été licencié quelques mois auparavant, celui dont je vous parlais tout à l'heure, alors qu'il se promène dans les rues dans sa voiture en saluant la foule, etc., il est assassiné. Donc on lui tire dessus. Il décède quelques heures plus tard. La commission Warren, donc c'est une commission qui a été désignée pour enquêter sur sa mort, dira que c'est Lee Harvey Oswald, un individu isolé, qui est coupable de ce meurtre et coupable seul. Ayant soi-disant des accointances communistes, on prétendra qu'il est totalement communiste, sauf qu'on s'aperçoit en fouillant un peu dans l'histoire que c'est très très ambigu, qu'il a peut-être même travaillé pour les services secrets américains à une époque. La commission Warren détermine qu'il se serait placé dans une salle de la bibliothèque, quelques étages plus haut, dans le dos du président, en fin de compte, au moment où il se fait tirer dessus, quand la voiture passe, il est derrière la voiture, que ce personnage aurait tiré 3 coups de feu, dont 2 atteignant le président, l'un dans le dos et l'autre à la tête. Hein, on a tous vu cette fameuse vidéo d'Abraham Zapruder qui a été dévoilée au grand jour grâce à l'enquête qui a mené un personnage juste derrière et un personnage dont je vais vous parler tout de suite. Quelques années plus tard, un courageux procureur qui s'appelle Jim Garrison entame une nouvelle enquête sur cet assassinat grâce à laquelle de nombreux documents sont récupérés, notamment le film dont je vous parlais d'Abraham Zapruder, montrant la vidéo de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Garrison n'arrivera pas, malheureusement pas à faire accuser de personnages pour ce meurtre, hein. Il n'arrivera pas à désigner des noms, à faire accuser une personne ou quelques personnes en particulier, mais il arrivera à prouver à tout le monde que la version officielle est totalement fausse et qu'il y a eu un complot qui a été fomenté contre JFK, John Fitzgerald Kennedy. Il arrivera notamment à démontrer que cette théorie est fausse en ces termes. Il est déjà impossible que Lee Harvey Oswald ait pu tirer 3 coups comme il l'a fait aussi vite, entre guillemets, je crois que c'est entre 5 et 6 secondes, 3 coups avec une carabine totalement vétuste, avec une précision qui, en plus, venant de ce pistolet-là, de cette arme-là, normalement la précision est tout à fait relative. Et lui, si tu es très loin et très haut, arrive à tirer à une vitesse folle, 3 coups avec une précision hors pair, alors que la carabine est très longue à recharger, etc., etc. Donc, on prétend tout ça, on comprend petit à petit que la version officielle s'écroule lorsque l'on creuse un peu. Que, bien évidemment, s'il avait tiré 3 coups de feu, une balle a touché Kennedy en passant une dizaine de mètres. Une balle avait touché un passant en passant une dizaine de mètres plus loin, hein, quelqu'un a été blessé au visage. L'autre avait atteint Kennedy à la tête, c'est le coup fatal. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il ne restait qu'une seule balle qui a provoqué les 7 autres blessures des passagers de la voiture et aussi de Kennedy. Voilà, donc il y avait dans la voiture avec lui Connelly, sa femme, etc., etc. La commission Warren a validé une thèse farfelue d'un inspecteur, un conseiller louche, ce qui conduit à la théorie de ce qu'on appelle la balle magique. Une balle aurait provoqué les 7 blessures à elle toute seule. Alors sur la page Facebook, je vous mettrai l'extrait du film mettant en scène le procès, qui est joué en l'occurrence par Kevin Costner, qui joue Jim Garrison, où il fait la démonstration de cette fameuse histoire de balle magique, qui est une thèse totalement absurde. Donc la balle, en fait, elle s'amuse, elle fait des trajectoires bizarres, elle vient dans un sens, elle repart dans l'autre. C'est un petit peu comme si c'était une Noé, c'est une balle volante, quoi, qui décide où elle va, donc qui provoque cette blessure à elle toute seule, et qui en plus est retrouvée après intacte sur le chariot de Kennedy lorsqu'il est transféré à l'hôpital, intacte, sans aucun dégât. Alors voilà pour situer un peu l'absurdité de cette chose, mais donc je conseille à tout le monde de voir ce film d'ailleurs qui est excellent et qui montre comment l'enquête est tumultueuse pour ce fameux procureur et qui démonte toute la version officielle. On va se passer d'ailleurs maintenant pour arriver bientôt au terme de l'émission, un passage où le procureur, ce fameux procureur Jim Garrison, rencontre un ancien agent de la CIA qui a démissionné, qui a eu vent des investigations de Jim Garrison. et il lui parle de ce que les Américains appellent les Black Operations. C'est les OP noirs, les opérations noires. Ce sont des opérations top secrètes pour placer des pions américains partout dans le monde et pour garantir les intérêts américains partout sur la planète, quels que soient les endroits. Même en France, n'importe où, ils arrivent à étouffer des choses, etc. etc. Donc, on se passe le petit extrait de ce film avec. Donc, c'est en l'occurrence joué par Kevin Costner et. Kiefer Sutherland, je sais plus si... Oui, c'est ça. Donc, on se passe le petit extrait. Ça dure environ 10 minutes, hein, mais vous allez voir qu'il y a un paquet de scoops et qu'il arrive à expliquer exactement tout ce qui s'est passé au moment du meurtre de Kennedy. Et il parle, il évoque aussi les raisons pour lesquelles il aurait éventuellement été tué.
Jim Garrison.
Oui.
Merci d'être venu. Excusez toutes ces précautions.
J'espère seulement que ça en valait la peine, monsieur.
Je pourrais donner un faux nom, mais je ne le ferai pas. Appelez-moi X.
J'ai déjà été mis en garde par la CIA, monsieur, qui que vous soyez. Alors, si c'est un nouveau type de menace,
je ne fais pas partie de la CIA, monsieur Garrison. Je présume que vous avez fait tout ce chemin parce que ce que j'ai à vous dire vous intéresse. Je ne vais pas vous donner des noms ou vous dire qui ou ce que je représente. Mais simplement que vous êtes près du but. Plus que vous ne l'imaginez. D'accord? Tout ce que je vais vous révéler est classé top secret. J'ai été soldat, monsieur Garrison. De guerre. J'ai été un de ces agents secrets du Pentagone qui fournissent le matériel militaire, les avions, les munitions, les fusils, pour ce qu'on appelle les opérations noires. Les OP noires. Assassinats, coups d'État, élections truquées, propagande, guerre psychologique, etc. Pendant la dernière guerre, j'étais en Roumanie, Grèce, Yougoslavie. J'ai participé à l'évacuation de l'appareil de renseignement nazi juste avant la fin de la guerre. Nous avons utilisé ces agents dans la lutte contre les communistes. En Italie, en 48, on a truqué les élections. En France, en 49, on a bridé les grèves. On a renversé Quirino aux Philippines, Arbenz au Guatemala, Mossadegh en Iran. Nous étions au Vietnam en 54, en Indonésie en 58 et au Tibet en 59. On a favorisé la fuite du Dalai Lama. Hein, nous étions bons. Vraiment bons. Ensuite, on entre dans l'affaire cubaine. Là, on n'a pas été aussi bons. On établit les bases pour l'invasion censée avoir lieu en octobre 62. Khrushchev envoie les missiles pour repousser l'invasion. Kennedy n'envahit pas. Et nous, on s'est retrouvés comme des cons, la queue à l'air. Ça en a fait des types foudrages, monsieur Garrison. Saisissez ? J'y reviendrai plus tard. Donc, 1963. J'ai passé presque tout septembre 63 à travailler sur le projet de Kennedy pour évacuer tout le personnel US du Vietnam avant la fin de 1965. Ce projet a été l'un des documents les plus forts et les plus importants de l'administration Kennedy. Le paragraphe 263 du plan de sécurité nationale ordonne le retrait des 1000 premiers soldats pour Noël. Mais en novembre, une semaine après l'assassinat du président vietnamien Diem à Saigon et deux semaines avant l'assassinat de notre président, une chose étrange m'est arrivée.
La cargaison panaméenne a pris du retard.
On a un C-47, ça, c'est celle-ci.
Oui.
Le problème, c'est que les armes doivent être là. Où sont les trucs? C'est... colonel?
Excusez-moi, vous avez demandé à me voir, mon général.
En effet. Vous partez demain pour le pôle sud.
Demain?
Demain. Le docteur Monet a tous les détails. Renseignez-vous auprès de lui. Et passez bonnes vacances.
J'ai été envoyé par mon officier supérieur, appelons-lui Y. J'ai été envoyé par le général Y au pôle sud. Comme escorte militaire d'un groupe de VIP internationaux. J'étais sur le chemin du retour en Nouvelle-Zélande quand le président a été tué. Alors, Oswald a été inculpé à 19h heure de Dallas du meurtre de Tippit, soit 14h le lendemain, heure de Nouvelle-Zélande. Et déjà, leurs journaux avaient la biographie complète d'un inconnu de 24 ans, Oswald. Photos de studio, renseignements détaillés sur sa vie, informations russes. Et ils étaient certains qu'il avait tué le président tout seul, alors qu'Oswald n'a été inculpé de ce crime que 4 heures plus tard, à Dallas. Il m'a semblé qu'on avait là une couverture fabriquée de toutes pièces, comme nous faisions dans les OP noirs. Toujours est-il qu'après mon retour, je me suis demandé
Pourquoi moi, le chef des opérations spéciales, j'avais été choisi pour faire un voyage au pôle Sud à ce moment-là pour un travail que beaucoup d'autres auraient pu faire. Et je me suis demandé aussi si ce n'était pas parce que une de mes fonctions aurait été, si je m'étais trouvé à Washington, de m'occuper du renforcement de la sécurité au Texas. Alors j'ai décidé de vérifier. Et évidemment, j'ai appris que quelqu'un avait donné l'ordre au 102e groupe de renseignement militaire de la 4e armée à son QG de force à Houston de rester consigné ce jour-là. Malgré les protestations de son commandant, le colonel Reich, c'est très révélateur, parce que la procédure habituelle militaire, en particulier dans une ville aussi hostile que Dallas, est de renforcer les services secrets. Je veux dire que même si on avait imposé le toit par balles en plastique sur la limousine, on aurait placé 100 à 200 de nos agents sur les trottoirs. Vous savez que juste un mois avant Dallas, l'ambassadeur Adlai Stevenson s'était fait molester. En France, on avait à plusieurs reprises attenté à la ville de Gaulle. Nous serions venus quelques jours à l'avance pour étudier l'itinéraire, fouiller tous les immeubles. On n'aurait jamais autorisé les fenêtres grandes ouvertes sur Dillet, jamais. Nous aurions posté nos tireurs pour couvrir le quartier. La moindre fenêtre qui se serait ouverte aurait été signalée par radio. On aurait surveillé la foule. Pas de paquets, pas de journaux, pas de manteau sous le bras. On n'aurait laissé personne ouvrir un parapluie sur le parcours. Jamais laissé cette limousine ralentir à moins de 20 km/h. Encore moins prendre ce virage vers Elm Street. Tout le monde aurait senti que l'armée était présente dans les rues ce jour-là. Mais rien n'a été fait. En violation des règles les plus élémentaires de protection de nos services. Ceci est la meilleure preuve qu'il y ait eu un énorme complot à Dallas. Et qui était le mieux placé pour ça? Les OP noirs, monsieur Garrison. Les gens de ma branche, quelqu'un comme mon supérieur pouvait appeler le colonel Reich et lui dire « Nous avons une autre unité provenant d'ici ou de là pour s'occuper de la sécurité. Vous, vous restez consigné. » Ce jour-là, en fait, il y avait des gens des renseignements de l'armée à Dallas. Je me demande toujours qui et pourquoi. Mais ils ne protégeaient pas le client. Et bien sûr, Oswald. Les services de l'armée avaient un dossier sur Lee Harvey Oswald. Mais toutes les fiches ont été détruites. Il se passait des choses très bizarres, et votre Lee Harvey Oswald n'avait rien à voir là-dedans. Tout notre cabinet était parti pour un voyage en Extrême-Orient, et nous avions le tiers de nos divisions de combat de retour d'Allemagne dans les airs, qui survolaient les États-Unis au moment de l'assassinat. À 12h34, l'ensemble du réseau téléphonique tombe en panne à Washington, pendant une bonne heure, et la salle d'état-major de la Maison-Blanche avertit Lyndon Johnson par radio dans l'avion qui le ramène à Washington que l'assassinat a été perpétré par un individu isolé. C'est pas des drôles de coïncidences, ça, monsieur Garrison?
Non.
Non, évidemment pas. Le cabinet était à l'extérieur du pays pour détourner son attention. L'armée était dans les airs pour mater d'éventuelles émeutes. Le téléphone était coupé pour éviter aux rumeurs de se propager en cas d'échec du plan. Rien n'a été laissé au hasard. Il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. À partir de ce moment-là, tout a été différent. Le Vietnam a démarré pour de bon. Il y avait un air de... je sais pas, de conspiration au Patagonie à la CIA. Les types dans les services secrets, comme moi depuis le début, savaient que la commission Warren était une fiction. Mais il y avait quelque chose de plus profond, de plus laid. Je connaissais très bien Lundell, je l'avais même renseigné sur plusieurs dossiers. Mais je vous jure que je ne comprends toujours pas pourquoi cet homme a été nommé pour enquêter sur la mort de Kennedy qu'il avait saqué. Et en plus de cela, Dulles était le bienfaiteur du général Gray. Je suis parti en 64. J'ai donné ma démission.
Je n'avais pas réalisé que Kennedy était aussi dangereux pour l'establishment. C'est ça le pourquoi?
Voilà la vraie question. Le pourquoi? Le qui et le comment ne sont là que pour amuser le public. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia occupe son esprit comme un jeu de société et l'empêche de se poser la plus importante question. Pourquoi? Pourquoi a-t-on tué Kennedy? Qui en a profité? Qui a le pouvoir d'étouffer l'affaire? Qui? En 1961, juste après la baie des cochons, très très peu de gens sont au courant de ça.
Bonjour.
J'ai participé à la rédaction des mémorandums de sécurité nationale 55, 56, 57. Ce sont des documents essentiels, des dossiers top secrets. Et qui disent en gros que Kennedy informait le général Lemnitzer, chef de l'état-major interarmé, que désormais les chefs d'état-major seraient entièrement responsables de la couverture des actions paramilitaires en temps de paix. Cela signifiait la fin du règne de la CIA, éclaté comme JFK l'avait promis en 1000 morceaux. Et maintenant, il ordonnait aux militaires de l'aider à le faire. C'était sans précédent. Je ne pourrais vous dire l'onde de choc que ça a déclenché dans les allées du pouvoir à Washington. Cette nouvelle et aussi le limogeage d'Allen Dulles, de Richard Bissell et du général Charles Cabell, les vaches sacrées de l'espionnage depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été l'affolement général. Les directives de Kennedy n'ont jamais été réellement exécutées à cause des multiples réticences bureaucratiques. Une des conséquences a été que mon département s'est retrouvé chargé de l'opération cubaine, sous le nom d'opération Mangouste. Mangouste était de la pure EP noire. On avait établi la base secrète dans le campus universitaire de Miami, la plus grande antenne intérieure de la CIA. Le budget annuel était de plusieurs centaines de millions de dollars. 300 agents, 7000 Cubains triés sur le volet, 50 sociétés bidons pour le blanchiment de l'argent. Il se livrait à une guerre sans répit contre Castro. Sabotage industriel, moisson brûlée, le paquet. Et tout ça s'est retrouvé sous le contrôle du général Y. Il a juste pris les règles de la guerre secrète utilisées à l'étranger et les a appliquées à notre pays. Il avait les hommes, le matériel, les bases. Et la motivation. Et ne sous-estimez pas les coûts budgétaires que Kennedy avait demandé en mars 63. Pas moins de 52 installations militaires dans 25 États, 21 bases outre-mer. Il s'agit de beaucoup de fric. Vous savez combien d'hélicoptères on a perdu au Vietnam ? Près de 3000 jusqu'à maintenant. Qui les a fabriqués ? Bell Hélicoptère. Et à qui appartient Bell ? Bell était presque en faillite quand la First National Bank de Boston a proposé à la CIA de développer l'utilisation de l'hélicoptère en Indochine. Qui fabrique les chasseurs F-111 ? Et à qui appartient la General Dynamics de Fort Worth au Texas ? Épluché le budget de la défense depuis le début de la guerre, 75 à plus de 100 milliards. Près de 200 milliards seront dépensés avant la fin. En 1949, c'était 10 milliards. Pas de guerre, pas d'argent. L'organisation même de toute société, M. Garrison, est basée sur la guerre. L'autorité de l'État sur son peuple réside dans sa puissance de guerre. Et Kennedy voulait mettre fin à la guerre froide dans son second mandat. Il voulait arrêter la compétition spatiale au profit d'une coopération avec les Soviétiques. Il a signé avec eux un traité interdisant les essais nucléaires. Il a refusé d'envahir Cuba en 1962. Et il préparait le retrait des troupes du Vietnam. Mais tout ça s'est écroulé le 22 novembre 1963. Pourtant, dès 1961, il savait que Kennedy ne ferait pas la guerre au sud-est asiatique. Comme César, il est entouré d'ennemis. Quelque chose se trame, mais qui n'a pas de visage. Pourtant, tout son entourage sait.
Vous pouvez mettre une croix sur vos troupes. Il a dit à McNamara qu'il allait foutre à la porte ses salopards de conseillers. Il nous a baisés au Laos, et maintenant, il va nous baiser dans cette saloperie de Vietnam.
Il ne peut pas le faire avant d'être réélu, il ne peut pas se le permettre.
Il paraît que ça a été à feu et à sang au Conseil National de Sécurité.
J'aurais pas voulu manquer ça pour tout l'or du monde.
Des têtes vont tomber un peu partout. Vous savez ce que Lemnitzer a fait ?
Non, quoi ? Kennedy a essayé de lui mettre le nez dans la merde, en disant que si nous ne sommes pas allés à Cuba, qui est si près, pourquoi irions-nous au Vietnam alors que c'est si loin ?
Ce fils de pute. Il a la trouille, il fait encore marche arrière.
Ah, Lem a dit que les chefs d'état-major pensent toujours qu'il faut aller à Cuba.
Il y avait beaucoup d'argent en jeu. 100 milliards de dollars. Kennedy faisait miroiter à ses principaux districts électoraux les dollars de la défense.
Il ne donnait de contrat pour les chasseurs TFX qu'au comté qui lui ferait faire la différence en 64. Mais son entourage a riposté à sa façon.
Il nous faut le contrôle des services de renseignement de Saigon.
Nous ne laisserons pas McNamara essayer de foutre son nez dans cette affaire. Chaque fois qu'il va à Saigon pour ses putains de missions de renseignement, il revient avec des nouvelles qui foutent la trouille au président. Je veux que Max Taylor soit sur son dos jour et nuit, comme une mouche sur de la merde. Si on contrôle McNamara, alors on contrôle Kennedy.
Je crois que ça a commencé comme ça. C'était dans l'air. Fournisseur de l'armée, gros banquier.
Oh, juste des conversations, rien de plus. Et puis un coup de fil a été donné, peut-être à quelqu'un comme mon supérieur, le général Y.
Oui, on y va. On a besoin de votre aide.
Quand ?
À l'automne. Sans doute dans le sud. Vous devez nous fournir un plan.
C'est faisable.
Tout est cloisonné. Personne n'a dit il faut qu'il meure. Il n'y a pas eu de vote. Rien n'a été écrit. Il n'y a pas un responsable. C'est l'éternelle histoire de la crucifixion. Un peloton d'exécution, 5 balles, dont une à blanc. Il n'y a pas de coupable. Parce que dans la hiérarchie du pouvoir, tous ceux qui savent ont la possibilité de nier. Il n'y a pas de compromission directe, si ce n'est au niveau le plus secret. Le seul objectif, c'est la réussite de l'opération. Peu importe le nombre de victimes, peu importe ce que cela coûte, ses auteurs doivent en être les vainqueurs. Et jamais passible de poursuite pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Ça s'appelle un coup d'État. Kennedy annonce son voyage au Texas en septembre. À ce moment-là, les faux Oswald commencent à se montrer un peu partout à Dallas, où ils savent que le maire et la police sont acquis à leur cause. Le général Y y envoie les assassins. Peut-être du camp spécial que nous avons près d'Athènes, en Grèce. Des pros, des types du coin, des Cubains sous contrat avec la mafia, en équipe séparée.
Est-il vraiment important de savoir qui a tiré et de quel poids ?
Ça fait partie du décor. Je ne peux m'empêcher de penser à cette journée, ce mardi 26 novembre.
le lendemain des funérailles de Kennedy.
Messieurs, je veux que vous sachiez que je ne lâcherai pas le Vietnam comme l'a fait la Chine. J'en fais une affaire personnelle. Et je ne retirerai pas un seul soldat de là-bas tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut compter avec nous en Asie.
Lyndon Johnson a signé le mémorandum de sécurité nationale 273 qui annulait la nouvelle politique de retrait de Kennedy et donnait le feu vert pour lancer l'action militaire au Vietnam, ce qui provoqua l'incident du golfe du Tonkin.
Vous n'avez qu'à me faire élire et je vous la donnerai contre sacrée guerre.
Dans ce document, nous avons la guerre du Vietnam.
C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'on l'a tué parce qu'il voulait changer les choses. À notre époque,
ça s'est toujours fait autrement.
Dans notre pays,
on tue les rois, monsieur Garrison. La politique, c'est le pouvoir, rien de plus. Oh, ne vous fiez pas à ce que je dis, ne me croyez pas sur parole, faites-vous votre propre opinion.
C'est tellement énorme. Ça me dépasse. Vous témoignerez ?
Moi ?
Vous témoignez.
Il n'en est pas question. Non, je serai arrêté, bâillonné, peut-être interné, déporté, peut-être même pire. Vous aussi. Je vous ai donné l'arrière-plan, à vous de trouver le premier plan. Les petits détails, continuez à fouiller. Vous êtes la seule personne à intenter une action pour le meurtre de John Kennedy. C'est important, c'est historique.
J'en suis pas là. Pas encore. J'ai pas assez d'éléments.
Vous n'avez plus le choix à présent. Vous êtes devenu une véritable menace pour l'organisation de la sécurité nationale. Ils vous auraient tué depuis longtemps si vous n'étiez sous les feux de l'actualité. D'ailleurs, ils essaient de vous ôter toute crédibilité. Ils ont commencé à le faire dans certains cercles de cette ville. Avouez-le. Votre seule chance, c'est de faire éclater l'affaire. Bougez. Agissez. Faites des arrestations. Essayez de remuer la merde. En espérant atteindre le point critique qui déclenchera une réaction en chaîne et fera délier les langues. Alors le gouvernement cédera. N'oubliez pas que l'opinion publique est friande de vérité. Et c'est vous qui détenez la vérité, mon ami. Je vous souhaite bonne chance.
Et voilà, vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts. Nous arrivons au terme de l'émission. Et donc, il s'agissait d'un petit document issu du film JFK d'Oliver Stone, avec Kevin Costner dans le rôle de Jim Garrison, le fameux procureur qui a levé l'affaire, qui a mis l'affaire Kennedy au grand jour au sujet de son meurtre, qui a réenquêté et qui a sérieusement mis à mal la théorie officielle qui a été évoqué par la commission Warren qui enquêtait sur ce fameux meurtre. Alors ce film, il est vraiment super intéressant à voir. Il a été construit que sur des faits réels, hein. Ce qui est raconté dans le film, c'est pas de la fiction. Certainement que tout ceci est un peu romancé et que c'est du cinéma, hein, bien entendu, mais tout est factuellement vérifiable. Voilà pour ce qui est de l'affaire JFK. Donc quand on parle de complot, là on est totalement dans le gras du sujet, on est même à la limite du coup d'état, hein. Il est même pas à la limite, on est dans le coup d'état. Apparemment la politique que voulait mener Kennedy dérangeait pas mal de personnes et ils ont fini par se débarrasser de lui d'une manière plutôt directe. Vous avez certainement aussi entendu parler dans ce petit passage du film de ce qu'ils ont appelé, une fois que Lyndon Johnson est arrivé au pouvoir suite au meurtre de Kennedy, donc qui était Lyndon Johnson qui était vice-président et qui a succédé à Kennedy, hein. Il parlait de ce qu'on appelle l'incident du golfe du Tonkin, pour rester un peu dans le complotisme, tout ça. Donc il s'agit précisément des actes qu'on appelle les fausses bannières, où l'État prétend avoir été victime d'un attentat pour mettre l'opinion publique derrière lui et légitimer son action militaire. Chose que va faire le successeur de Kennedy, le vice-président promu Lyndon Johnson. L'histoire du golfe du Tonkin, c'est en fait les incidents du golfe du Tonkin, sont survenus entre le 2 et le 4 août 1964. C'est des torpilleurs nord-vietnamiens et des destroyers américains, l'USS Maddox, etc., qui auraient échangé des tirs de canon. L'existence de l'affrontement du 4 août a longtemps été controversée et des éléments ultérieurs, dont un rapport rendu public en 2005 par la National Security Agency, donc la NSA, indique qu'il n'y a pas eu d'attaque nord-vietnamienne le 4 août, et voilà comment les Américains se sont débrouillés pour justifier leur intervention militaire au Vietnam. Ils ont simulé une attaque du gouvernement nord-vietnamien sur eux, et ils ont pu intervenir encore de manière encore plus imposante au Vietnam en renvoyant des troupes et des hélicoptères Bell qui étaient fabriqués par une entreprise américaine qui a donc touché tous les crédits de guerre alors qu'elle était au bord du dépôt de bilan juste avant le conflit vietnamien. Voilà, donc c'est différentes époques hein, où se passent ces choses-là. Ça s'est passé récemment avec l'Irak. Hein. On a parlé d'armes de destruction massive ou de choses comme celle-ci pour pouvoir légitimer l'intervention militaire, alors qu'on s'est rendu compte derrière qu'il n'y avait absolument rien. Mais on a remis l'industrie militaire en marche, et tous les collègues et les copains de Bush, notamment Cheney, etc., ont pu bénéficier des crédits de guerre pour refaire tourner leurs industries et ainsi s'enrichir sur le dos de l'État et sur le dos de l'argent qui a été mis en caisse par les contribuables. Voilà comment on se débrouille pour légitimer ces interventions militaires. Et comme quoi, lorsque l'on parle de complot, il ne s'agit pas d'histoire de dire théorie du complot ou pas, c'est qu'il y a certains moments où même un groupe de personnes fomente quelque chose, une action secrète, dans le but de nuire soit à une personne, soit à un autre groupe de personnes. Voilà, c'est tout simplement ça la définition d'un complot. Et dans l'histoire géopolitique du monde et des guerres, on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Voilà, en réfléchissant un peu et en creusant. Donc, on vous mettra les liens sur la page Facebook concernant le film JFK, l'histoire de la balle magique, qui est tout à fait édifiante, et puis le lien de l'opération Northwood, etc., etc. Voilà pour ce soir, les yeux grands ouverts, c'est terminé. On est bien à la bourre, mais on a commencé à la bourre. Il est 00:18. Et je vous souhaite une excellente soirée. Avant tout ça, je vous rappelle qu'il y a toujours la boîte mail lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, le blog pour écouter, réécouter tous les podcasts. Donc vous pouvez trouver en allant sur le site de Radio Canu. Vous allez sur le planning, cliquez sur les yeux grands ouverts le dimanche de 23h à minuit, c'est là qu'on est situé. Et vous pourrez ainsi réécouter toutes nos précédentes émissions. Il y a la page Facebook, donc il faut que vous cliquiez sur j'aime et que vous vous abonniez à cette page pour pouvoir la voir défiler dans votre fil d'actualité et voir tous les documents qui vont être postés prochainement. Je vous rappelle que Radio Canu fait toujours appel aux dons pour pérenniser son activité. Donc envoyez vos dons, soit renseignez-vous sur le site directement ou envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01 pour nous aider. Et je vous souhaite une excellente soirée. L'émission Les yeux grands ouverts ne sera pas la semaine prochaine. Dimanche prochain, il n'y aura pas d'émission. Et ni le dimanche d'après, puisque c'est les vacances. Et oui, nous aussi, on a le droit de prendre un peu des vacances, parce que c'est du boulot, tout ça. Alors, je vous souhaite donc une très bonne nuit, une bonne soirée, si vous avez l'intention de faire autre chose. Et je vous dis donc à dans 3 semaines. Bonne soirée à tous, et amour et révolution. Salut !